Voilà, l'autre jour, on a profité de quelques jours de vacances et nous sommes allés, le dernier jour, nous sommes allés à Amiens. Et Amiens, c'est magnifique, hein. Et il y a la grande cathédrale à Amiens. Et on peut voir un son et lumière la nuit, ça vaut la peine, hein. C'est vraiment magnifique. Et. Mais quand même, la cathédrale d'Amiens, quel témoignage de foi, toujours dans ce pays de France où on dit, voilà, peut-être les gens ont abandonné Dieu, ils ont abandonné leur culture et tout ça, il y a quand même ces témoignages cachés, je dirais même des trésors, parce qu'on voit que partout, dans les sculptures, dans les statues, il y a l'évangile, il y a toute l'histoire de Jean-Baptiste. Et quelquefois, bon, pour nous des protestants, c'est poussé un peu trop à l'extrême, on peut voir des crânes, des machins. Et donc, c'est vrai qu'il y a des prières aux anges et tout ça, mais bon, en dépit de tout ça, pour ma sensibilité protestante, il y a quand même un énorme témoignage de l'évangile. Et une chose qui m'a vraiment touché, c'est que je suis entré dans cette église. Et je suis toujours touché quand même dans ces grands monuments. Et là où il y a la prédication, là où quelqu'un, le prêtre, il doit donner l'homélie, hein, c'est pas comme ici, hein, ici c'est tout humble, hein, on est juste là, mais là c'est un énorme machin. Et là, au-dessus de tout ça, il y a un énorme ange, hein, énorme, une statue d'un un ange qui a le doigt dans l'air et qui ouvre la Bible comme ça. Comme ça. Et marqué sur la Bible, il y avait trois mots en latin, hein, parce que c'est quand même dans une église catholique, trois mots en latin. Et donc, je ne sais pas si vous avez étudié le latin. Hein. Ah, voilà, le défi, hein, il y a Jacques, hein, en concurrence. Hein. Et donc, trois mots marqués sur cette Bible. Et j'ai dit, moi, si on devait, j'ai dit quand même, c'est un peu très inspiré, parce que on peut pas marquer toute la Bible, hein, hein, on peut pas marquer toute la Bible. Et donc, si tu devais, c'est quelqu'un qui doit tailler dans la pierre, tu dois tailler trois mots, hein, ils ont, pour tout résumer, quand même, qu'est-ce qu'on va marquer en latin? Trois mots, qu'est-ce que je marquerai? Peut-être il y a des gens qui savent déjà, peut-être c'est très connu par le milieu catholique, tu vois, quoi, je suis qu'un petit pauvre apprenti, mais peut-être tous les catholiques de France, ah oui, je connais ces trois mots, mais bon, je vais vous les dire. Est-ce que vous avez une idée quels mots ils ont choisi? Trois mots en latin. Ça commence avec hoc, hoc, H-O-C, hoc, hoc, fac, hoc, fac, vives. Hoc fac vives. Hoc fac vives. Et là, j'ai dit. T'as trouvé? Hein, bon, mais.
Je n'osais pas le dire.
Hoc fac vives. Et moi, j'ai regardé ça, je dis. Ça m'a posé une colle après. Je dis, mais je veux savoir ce que c'est, parce que j'avais aucune idée. Hein. J'étais là, je n'ai jamais étudié le latin. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Après, j'ai fait des recherches sur Internet et tout ça. Et finalement, j'ai dit, mais quel dommage qu'ils n'ont pas mis ça, une petite explication, parce que c'est merveilleux! C'est merveilleux! Il y a un trésor dans ces trois mots. Je voulais même faire un rap. Je dis, je vais faire un rap. Hoc fac vives, hoc fac vives. Tu vois, c'est. On peut faire beaucoup de choses, mais si on le dit comme ça, et pour beaucoup même maintenant, vous êtes dans l'ignorance, comme moi j'étais. Qu'est-ce que ça veut dire? Hoc fac vives. Donc je vais garder ça un mystère pour le moment. Sauf pour elle, Liliane, qui connaît. Mais si vous regardez, hein, vous allez trouver quelques indices en Luc 10. Hein, et c'est parabole du bon samaritain. Et il y a un docteur de la loi qui arrive. Donc un grand théologien qui... Et lui aussi, il veut arriver au point culminant du ministère de Jésus. Il dit, mais quand même, il faut nous dire quelque chose de clair et de vrai. Et il pose une question qui est essentielle. Et quelquefois, on ne se pose pas assez ces questions, mais il pose une question essentielle. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est quand même une grande question. Hein? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et cette vie éternelle, c'est Zoé, parce qu'il y a la vie bios, hein? Ça c'est un cadeau, hein? Tu es né avec ton bios, c'est la biologie. Et après tu as le souché, c'est la vie de l'âme, tout ce qui est émotion, décision, la volonté, vouloir et tout ça. Mais après le Zoé, c'est la vie éternelle, quoi. C'est cette vie Dieu, c'est le Zoé, c'est... Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, il a donné une vie impérissable. Et cette vie impérissable est perdue par le péché et par la chute de l'homme. Et finalement, il y a les gens, ils ne vivent que pour leur bios. Ça va, hein? Moi je ne suis pas contre le bios, mais ce n'est pas le bios qui va hériter la vie éternelle. Et il y a d'autres gens qui vivent que pour leur âme, la force de l'âme, je vais dominer sur l'autre. Voilà, je suis fort. Et allez. Ce qui te tue pas te rend plus fort. C'est, mais bon, c'est, merci Nietzsche, mais c'est, hein, il y a des choses qui te tuent, et même il y a certaines choses, ça te tue vraiment. Et même si t'es pas mort, t'es mort à l'intérieur. Et donc, mais il y a quand même un cadeau de Zoé, la vie éternelle. Et ce docteur de la loi, c'est ça qu'il voulait savoir. Qu'est-ce qui va continuer? Et c'est vrai, c'est notre corps va aussi continuer grâce à Zoé. Parce que cette vie Zoé de Dieu, ça transforme l'âme et ça transforme notre biologie. Et ça nous confie une promesse d'éternité. Et donc quand même, c'est une grande question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus qui est magnifique, hein, il ne donne pas juste une réponse vite fait comme ça. Il dit, mais toi, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Et là, le gars, il doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Et après, on peut aussi, on va revenir à Luc 10, mais on peut peut-être juste voir en Marc 12, vite fait. C'est aussi la même sorte d'histoire, hein, que les gens ils posent les mêmes questions à Jésus, docteur de la loi. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est le plus grand des commandements? C'est vers 28, hein, Marc 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Hein, c'est quand même, on parle maintenant de premier de tous les commandements. Et donc, je ne sais pas si vous avez fait votre catéchisme. Parce que moi, c'est dur ce matin, le latin, les 10 commandements. Hein? Les 10 commandements. Vous êtes prêts? Montre-moi vos mains comme ça, 10 commandements. Hein? Et donc, quand je vois mes mains... Oui, bravo, bravo, bravo. Et donc, quand je vois mes mains, j'ai au moins 2 opportunités. Hein? Je peux faire des points. Je peux faire des points et je peux... Paf! Je peux taper les gens avec mes poings, comme Mohamed Ali, hein, float comme a butterfly, sting like a bee, hein, flotter comme un papillon, piquer comme une abeille. Et je pense qu'on peut dire les 10 commandements. Allez, les 10 commandements. Les 10 commandements. Allez, 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 les 10 commandements. Et on dit, voilà, les 10 commandements. Un seul Dieu, en but, en colère, un seul Dieu. Commandement. Et après on peut dire, pas d'idolâtrie. Pas d'idolâtrie, pas d'autre adoration, j'ai le monopole. Et après on peut dire, faut pas me blasphémer. Hein. Si tu dis un petit mot à travers, paf. Et après on peut dire, voilà le commandement avec un point là. Gardez le sabbat. Hein. Voilà, plus de jeu, le sabbat, là, il faut être sérieux, le sabbat. Et après, il faut honorer les parents. Il faut, même si ton père te tape, il faut lui dire merci. Il faut l'honorer. paf, le cinq premiers commandements. Et après les autres, faut pas tuer, faut pas tuer. Pas de boogie-woogie samedi soir. Je ne sais pas si c'est dans l'évangile, hein. Mais il faut pas faire d'adultère. Et bien sûr, et là, faut pas tuer. Non, non, il faut pas voler. Il faut pas voler. Et après, il faut pas mentir. Il faut pas être jaloux. Il faut pas convoiter. Tu vois. Et donc, il y a une manière de dire les 10 commandements. Paf, paf, paf. Ce que je viens de faire. Et pour avoir la vie éternelle, je vais vous battre jusqu'à ce que vous ayez. Ça va être une obligation de l'extérieur. Je vais te dominer par mes commandements. Mais voilà, j'ai un autre choix. Au lieu de faire des points, je veux faire, comment je peux dire, une étreinte. Une caresse. Je ne vais pas te le faire, Rémi.
Non. Merci.
Peut-être, si j'avais un traducteur, hein, mais tu sais, on peut caresser. Et au lieu d'être une obligation de l'extérieur, ça peut être un désir du cœur, comme une caresse. Comme quelqu'un qui, comme Sylviane a si bien dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a mis un désir dans notre cœur. Il est mort pour nous, hein, sur la croix, pour que nous ne périssions pas. Mais sa mort sur la croix n'était pas juste objectif, c'est une expérience pour nous. C'est quelque chose que, à cause de sa mort, il a effacé la séparation qui était le péché et toutes ses obligations et toute cette loi même. Il a changé des points en caresse. Hein, il a changé des points en caresse. Et au lieu de dire tu dois, il nous a donné un désir. Rien vouloir. Et donc, je sais que ce n'est pas très biblique, mais je pense que c'est quand même dans l'intention du cœur de Dieu, et je pense que c'est assez évangélique, de dire, au lieu de dire les 10 commandements, on va dire les 10 désirs. Les 10 désirs. Et ça change tout. Ça change tout d'avoir les 10 désirs. Et si tu as les 10 désirs, c'est pas difficile. C'est pas une obligation. C'est pas comme si tu es abusé par un commandement. C'est, voilà, je suis dans ce lieu. Comme la fidélité d'un seul époux ou une seule épouse. Seigneur, tu es mon seul désir, je t'aime. Un seul lieu, c'est pas difficile, c'est pas un truc intello, là. Ça, c'est. Et après, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras pas l'idolâtrie. Mais Seigneur, je désire t'aimer, Seigneur. Je ne veux pas me donner aux choses superficielles. Ça me dégoûte même. Je ne veux pas me donner à l'argent. Et tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'on veut aimer quelque chose qui nous élève, quoi. Je ne veux pas m'abîmer en m'abaissant devant d'autres dieux. Je veux m'élever en adorant quelque chose de merveilleux. Tu sais, on dit maintenant beaucoup, tu es ce que tu manges. Tu vois, on dit ça, ou tu deviens ce que tu manges. Mais je vais dire, tu deviens ce que tu adores. Tu deviens ce que tu adores. Donc, tu peux voir ça, on devient ce qu'on adore. Et donc, si tu adores Jésus, tu deviens comme lui. Et après, on a envie d'adorer Dieu. Après, voilà, tu ne vas pas prendre le nom de Dieu en vain. Tu vois, mais voilà, Seigneur, je désire avoir la poésie de ton nom dans ma bouche. Je désire donner une prière qui dit je t'aime. Je désire, Seigneur, avoir un langage qui t'élève, quoi. Mais c'est normal, non? Est-ce que dans le culte ce matin, tu as eu envie de... Oh, je vais maudire Dieu. Non, mais de tout l'opposé, on a un désir de dire, mais avec toutes ces magnifiques chants qu'on a chantés, c'est naturel, on a un désir. Dieu a tellement caressé notre cœur que, oh, je t'aime, Seigneur. Tu es le plus beau, Seigneur. Tu es le prince de la paix. On cherche nos petits mots faibles. Et donc, il y a un désir. Et après, on a un désir de pas juste venir dimanche, mais de dire, voilà, tous les jours, Seigneur, c'est un sabbat de repos, je me repose en toi, j'ai un désir de donner du temps pour toi, Seigneur. J'ai un désir, et c'est vrai, le temps, on a un temps pour vivre, pour manger, pour travailler, et c'est vrai, quand le temps passe vite, ça passe entre nos mains, mais vous pouvez racheter le temps. Et d'un côté, je pense que dire merci, c'est une magnifique manière de racheter le temps. Juste de vraiment être dans le moment que tu vis. C'est quelquefois, on ne prend pas le temps de saisir le moment. C'est super dimanche matin, parce que c'est comme si ça nous donne un moment dans le temps concentré. On a un moment dans l'adoration. Et quand tu prends juste, il faut juste être conscient de dire voilà, j'accueille Dieu dans ce moment. C'est pour ça que dimanche est quand même bien, parce qu'on est tous ensemble et on accueille un moment dans le temps. Et ça appelle la présence de Dieu, ça. Quand tu arrêtes et tu dis, voilà, d'accord, je me concentre un peu, je désire, Seigneur, je te désire. Et pff, tout d'un coup, le temps est racheté. Il y a un poids dans le temps. Au lieu de juste être un temps superficiel qui est perdu, c'est un temps gagné. Et c'est un temps comptabilisé. Et tu es là dans ce temps d'adoration, il y a une présence, il y a un temps dans l'écoute, et dans la parole, il y a un temps dans la conversation vraie avec l'autre, où tu prends le temps de voir sa beauté, de regarder dans les yeux, et tu accueilles sa personne, tu accueilles même, je dirais, la présence de Jésus en lui. Tu sens ça, et tout ça, c'est beau, et c'est comme si ça valorise le temps. Et c'est comme un sabbat. C'est comme un sabbat qui est là. Mais ce n'est pas juste réservé au dimanche. Même si dimanche, c'est un temps qu'on peut mettre à part. Et c'est important d'avoir ces temps de mise à part. Mais ça peut être un lundi matin. Ça peut être dans la voiture quand tu conduis. Ça peut être même au cœur de l'orage. Au cœur de l'orage. Au cœur des moments. Voilà, je vais te dire merci, Seigneur. Je vais juste appeler ta présence et tu verras, ça rachète le temps, ça peut même transformer des situations. Et donc, c'est pas l'obligation d'un sabbat, mais c'est le désir de la présence de Dieu dans ma vie et trouver un repos à chaque moment. Et après, voilà, honore tes parents. Ça veut pas dire qu'il faut tout te permettre. On peut confronter des choses injustes et on peut les dénoncer même, et on peut, avec peut-être la grâce de Dieu, trouver le pardon. C'est pas une imposition, mais c'est juste peut-être cette disponibilité de soumission et pas de rébellion, et de dire que les parents, c'est pas juste les parents biologiques, mais je dirais toute la tradition même. Je pense que les parents représentent toute la tradition de notre culture, toute la tradition de l'évangile, toute la tradition et toute la bonne autorité qui est là. Parce que si on jette l'autorité, c'est la première manière de rejeter Dieu aussi. Et donc si on rejette le père ou la mère, ou on rejette le professeur, ou on rejette le policier, on rejette même je dirais les traditions, les pères de l'église, toutes ces traditions, on balaye, on dit oh c'est nul tout ça. Non, mais on ne peut pas juste balayer la tradition de la parole de Dieu et tout ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut désirer la stabilité, il faut désirer la famille, il faut désirer cette histoire, cette anthropologie de l'homme. Et je pense que toute l'œuvre de l'ennemi, c'est de nous séparer, c'est de nous déraciner de tout ça. On voit tous ces projets de créer un déracinement total. Et quand tu es déraciné, tu es tellement malléable. Tu n'as aucune valeur, tu n'as aucune autorité parce que tu es déraciné. Et donc, ce n'est pas comme un truc juste aime ton papa qui t'a cogné ou qui n'a pas, ou aime ta mère qui te rejette. Et ce n'est pas juste simple comme ça. C'est de dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui sait faire le tri, qui sait pardonner, qui sait voir la justice, mais qui sait aussi me soumettre à tout ce qui est bon dans l'autorité. Et je désire ça. Qui ne désire pas une famille? Qui ne désire pas avoir l'ordre? Qui ne désire pas être enraciné dans une culture, dans une famille? Hein, je pense que c'est le propre de l'homme d'être enraciné. Et c'est aussi notre unité d'être enraciné. Parce que quand tu es déraciné, tu as une petite racine qui vole dans l'air. Et c'est tellement individualiste qu'on n'est plus enraciné dans, ni dans une race, ni dans une identité. Et je pense que l'Église, et la vraie Église de relation, nous enracine dans toute cette communion des saints. Et on a besoin d'honorer nos parents. Mais c'est un désir. Ce n'est pas une obligation encore. Après, loin de tuer. Mais qui veut tuer? Mais Jésus a dit, c'est une question de cœur. Hein. Il dit, même si tu dis raca à quelqu'un, raca. Mais il ne faut pas être en colère et tout ça. Mais on a le droit d'avoir 5 minutes. Hein. C'est le propre de l'homme. Il y a des moments d'outrage et on a le droit d'être outragé. Mais on n'a pas le droit de rester outragé. On doit faire le tri. Et je pense que c'est beaucoup, au lieu de doter la vie, je pense, moi, j'ai vraiment un désir de donner la vie à mes frères et sœurs, à l'humanité même, les gens autour de moi. Quand je vois quelqu'un, je ne veux pas l'insulter et de lui dire, voilà, je veux te tuer. Mon désir, honnêtement, je pense que j'ai reçu par la grâce en Jésus, c'est d'aimer la personne. C'est comment est-ce que je peux t'élever? Comment est-ce que je peux ajouter la vie à ta vie? Je ne sais pas si vous êtes comme ça, tu sais, de dire, voilà, comment est-ce que je peux ajouter, comment est-ce que je peux... On rencontre quelqu'un, on n'est pas là. C'est ça, c'est le problème de tout Jean-Paul Sartre et tout ça, là, il faut dominer sur l'autre. Tiens, ça ne sert à rien. Et tous ces gars, ils étaient tellement déprimés, ils avaient des vies de malheur. C'est pas possible, hein. Tu récoltes ce que tu sèmes. Mais si tu désires investir la vie, même si ce n'est pas reçu, ce n'est pas grave, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Si tu donnes l'argent à quelqu'un d'autre, tu vas être diminué. Si tu donnes le temps à quelqu'un d'autre, peut-être tu auras moins du temps. Mais si tu donnes l'amour à quelqu'un d'autre, tu n'es pas diminué. C'est ces choses qui se multiplient quand tu donnes l'amour à quelqu'un. Et donc, c'est le désir, là, la caresse, c'est pas ne tue pas, mais je t'aime. Et après, l'adultère, mais je ne veux pas consommer, posséder. Je veux respecter l'autre. Je veux avoir un regard, pas un regard rempli d'adultère, mais un regard qui dit, mais quelle beauté, merci Seigneur pour la beauté du corps humain. Mais après, qui dit, je ne veux pas croquer dedans, je ne veux pas prendre, et je veux dire, mais comment est-ce que je peux honorer, respecter? Comment est-ce que je peux embellir cette belle création? Comment est-ce que je peux trouver la sainteté? C'est vrai, c'est pas toujours évident, mais peut-être ce désir, on peut demander à Dieu de nous donner un plus grand désir. Un plus grand désir. Et je ne veux pas voler, je peux donner. Non, je veux donner. Je veux donner, je veux donner, je veux donner, je veux donner. Et après, voilà, je ne veux pas mentir. Est-ce que tu dis, je veux dire la vérité, c'est normal, non, de caresser les gens avec la vérité. Et si tu as une vérité difficile à dire aux gens, la vérité et l'amour sont toujours liés dans la Bible. Il faut dire la vérité avec amour. Et donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Je vais te dire la vérité, d'accord, mais dis l'amour. Il faut vraiment créer ce contexte d'amour pour dire la vérité. Mais on a envie de dire la vérité aux gens. Mais surtout la vérité de l'Évangile, qui sont aimés par Jésus. C'est la plus grande vérité qu'on peut dire. Et après, voilà, l'œil jaloux, l'œil mauvais. Si ton œil est mauvais, tout le corps est mauvais, a dit Jésus. Si tu as ce regard de jalousie, de convoitise, voilà, il a plus que moi, il est meilleur que moi. Mais il ne faut pas avoir un œil comme ça. Il faut dire, encore là, avoir un œil de dire, waouh, je suis très content pour la réussite de l'autre. Là, tu serais beaucoup plus heureux si tu peux avoir cet œil. Si tu as un œil qui dit, oh, mais merci pour le bonheur de mon frère, je suis tellement content pour ses talents, pour ce que tu as donné, pour sa réussite. Waouh, ça va te libérer d'un tas de cauchemars et de trucs difficiles. Et tout ça, c'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Il transforme nos poings en caresses. Et Jésus est venu pour mettre, voilà, pour écrire. Il dit, j'ai écrit la loi sur ton cœur. Et donc là, on revient à Marc 12, là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est le plus grand commandement? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et donc Jésus dit, voilà, l'amour. Aimez Dieu. Voilà, très simple. Et après, il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc là, tout en citant Deutéronome et Lévitique, tu as les deux comme ça. Et ça, Jésus, voyant qu'il avait bien répondu, avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu sais, il dit ça à un scribe de l'Ancien Testament. Et pourquoi il a dit, tu n'es pas loin? C'est parce que ce n'était pas encore pleinement accompli, parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Mais il était vraiment tout, tout près. Ce n'était pas encore écrit vraiment dans son cœur. Mais pour nous, c'est maintenant écrit dans notre cœur, cette loi de l'amour. Et les 10 commandements ne sont pas les 10 commandements, ils sont les 10 désirs maintenant. C'est un désir en nous. Et si nous luttons avec ce désir, parce que voilà, il y a les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Mais voilà, Dieu nous donne la grâce de marcher par l'esprit. Et peut-être sur ces 10-là, peut-être certains, tu dis, oh, je suis toujours un peu... Voilà, il y a un autre vent qui souffle quand je pense à celui-là. Mais laisse le vent de l'esprit souffler sur ta vie. Allez, revenons à Luc 10, hein, parce que je vous ai gardé dans le mystère de mes rock-fac vides. Et donc, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et encore ce docteur de la loi, quel génie d'un côté. Il avait déjà fait le tri, hein, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Bravo. Et après, hoc, fac, vives. Hein? Tu as bien répondu, hoc, fac, vives. Fais cela. Et tu vivras. Hoc fac vives. Fais cela et tu vivras. Hoc fac vives. Et je dis, mais quel génie dans cette église d'amour, d'avoir une Bible ouverte et d'avoir un ange qui dit hoc fac vives. Bon là, sur le premier coup, j'étais dans l'obscurité, ça ne m'a pas aidé. Mais maintenant, hoc fac vives. Fais cela et tu vivras. Aimez Dieu, aimez ton prochain, fais cela, tu vivras. Ah, il faut venir à l'église, il faut donner, il faut faire ça, il faut. Non, ça c'est une caresse, c'est trop fat vivait, c'est le don de Dieu. Il écrit cet amour sur notre cœur, c'est le cadeau, moi je ne suis pas né avec. C'était le cadeau qui m'a donné, le cadeau d'avoir un désir de dire, voilà Dieu, je t'aime Seigneur. Et ce désir doit grandir en nous. Ce n'est pas une obligation. Tu imagines quelle horreur le père qui dit à son enfant, tu dois m'aimer, sinon je te tape. Quelle horreur. Mais l'amour, ça grandit. Et c'est alimenté par la grâce. C'est alimenté. Si tu as un problème avec ça, regarde à la croix. Regarde à ce que Sylviane a cité ce matin. Dieu a tellement aimé le monde. Tu vois, il est le premier à mettre en marche cette loi de l'amour. Et il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que le poing soit changé en caresse. Et qu'il nous a caressés par l'amour de son Fils Jésus, qui est mort sur la croix, le sang nous a lavés de nos blessures, de nos péchés. Et après, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant pour toujours, il a les clés de la vie. Et il a la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour... Mais il faut recevoir. C'est pourquoi le gars n'était pas trop loin, parce qu'il voulait toujours faire au lieu de recevoir. Et donc, pour aimer, il faut recevoir l'amour avant. Je ne peux pas vous donner de l'eau si quelqu'un ne me donne pas de l'eau. Même s'il fait chaud et j'ai soif et tout ça. Et vous, si même si j'ai envie de vous donner de l'eau, si je ne l'ai pas reçu moi-même de l'eau, je ne peux pas vous le donner. Donc le premier pas, ce n'est pas de faire. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il faut recevoir. Il faut recevoir l'amour de Jésus dans le cœur. Et recevoir le Saint-Esprit en nous. Et après, c'est écrit, tout est écrit là-dedans. Même si quelquefois, il faut enlever un peu de poussière. Hein, et quelquefois, il y a la vie, il y a un autre vent qui souffle sur nous. Et on est un peu fatigué, et on oublie, et on se laisse avoir, on vit dans le mensonge. Mais la vérité, c'est que l'amour est écrit dans notre cœur par la foi en Jésus-Christ. Et on peut maintenant aimer Dieu naturellement. C'est un désir. Et on peut aimer notre frère et sœur. C'est un désir. Et fais cela. Et tu vivras. Hoc fac vives. Amen.